Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bienvenue et bienvenue à Marion Brunet. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre et on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir dans notre émission. Votre roman, L'été circulaire, vient de sortir chez Albin Michel. Et si je ne m'abuse, c'est le premier roman qui est clairement identifié, tout du moins, pour les adultes, puisque les 6 précédents étaient plutôt dans des collections chez les éditions Sarbacane pour des jeunes ou moins jeunes adolescents. Je me trompe pas ?
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
Voilà, donc l'été circulaire, Albin Michel, c'est pour adultes, mais je gage que plein d'adolescents vont pouvoir lire ce très très beau roman. Et pour un peu dégager l'atmosphère, si en première approche, et vraiment en première approche, puisqu'après on va quand même parler de roman noir, on dit que ce roman pourrait s'appeler Chronique de la vie ordinaire. Est-ce que ça vous convient ?
Alors, ça me convient dans un premier temps, effectivement, puisque on est dans quelque chose de la vie ordinaire de cette famille, mais que quand même, dès le départ, il y a le rouage se grippe, le rouage de la vie ordinaire se grippe, puisqu'il y a un élément déclencheur qui va un petit peu casser l'aspect ordinaire de la vie de cette famille.
Voilà, c'est vraiment le roman noir, et on n'est pas dans le roman policier classique, c'est le roman noir où finalement c'est des conditions sociétales en général qui finissent par engendrer un drame ou qui expliquent des drames. Et la première approche aussi, c'est l'emplacement, l'endroit. Donc vous avez choisi de situer le roman dans un petit coin du Luberon, qui est à la fois un coin de campagne finalement, comme on en connaît tous beaucoup, mais qui a plein de singularités. Alors, si vous pouvez un petit peu nous justifier le choix de cet endroit.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, moi, je pense que c'est des situations et des contextes qu'on peut rencontrer dans plein d'autres petits coins de France. Et j'avais vraiment envie que cette histoire-là puisse effectivement être imaginée dans tout un tas d'autres endroits. La particularité de la région, donc du Vaucluse, c'est, je pense, la disparité des milieux et ce mélange de très riches et de très pauvres, en fait, où des ouvriers agricoles côtoient des stars qui ont leur maison secondaire avec piscine hors de prix. C'est vraiment une région qui est pleine de ces contrastes sociaux. Voilà. Donc, en ce sens, je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça cristallise des tensions, forcément.
Oui, ça, on va revenir parce que c'est un des thèmes prégnants et très, très intéressant que vous avez de manière très subtile abordé tout au long du récit. Mais on va quand même présenter les deux personnages principaux qui sont deux adolescentes, 16 ans, 15 ans, Céline et Jo. Et on les rencontre au début. Alors, il y a un événement, voilà. On pourrait paraphraser d'ailleurs le titre d'une pièce de théâtre. C'est Lorsque l'enfant paraît, puisque tout commence lorsque Céline, 16 ans, annonce à son père qu'elle est enceinte et qu'elle ne veut absolument pas dire le nom du père. Vous nous présentez un petit peu Céline et puis sa sœur Jo.
Alors Céline, c'est la plus grande, c'est pas forcément la plus raisonnable. C'est une jeune fille qui existe beaucoup par son physique. Et je le dis dès le début du roman, tout l'a porté à ça, puisque son père, dès le début, l'a encouragée à être belle et à exister dans le regard des hommes. Donc elle existe beaucoup dans le regard des garçons et des hommes, on le découvrira au fur et à mesure du roman. Et elle se contente assez bien quand même de cet univers, même si elle n'en est pas complètement satisfaite, elle n'imagine pas autre chose. Jo, à l'inverse, est quelqu'un de plus introverti et qui, elle, envisage dès le début du roman un ailleurs possible et une autre vie que celle qu'on lui offre qui ne lui convient pas.
Alors moi, je vais vous citer...
Elle est plus sauvage, je dirais.
Pardon.
Oui, vous allez vous...
Non, j'allais vous citer parce que moi, il y a deux phrases, deux jolies phrases qui résument d'ailleurs un petit peu ce que vous avez dit. Donc, à un moment donné, vous dites de Céline, 16 ans à s'agiter dans le monde, effleurer le vide, éclore sans apprendre, devenir encore plus jolie que l'année dernière et un peu plus conne. Gentil pour votre personnage. Non, je plaisante. Ça lui va très bien. Et par contre, Jo, quelques lignes plus loin, vous dites, elle porte un peu de cette lassitude désespérée qui fait parfois office de maturité, même à 15 ans. Donc, on voit déjà le contraste entre ces oui. deux. Et tout le fil du roman, vous allez très bien décrire leurs réactions, leurs pensées, leurs dialogues, leur rupture ou pas avec des adultes ou avec des gens de leur âge. Un des thèmes du roman, c'est explorer ce moment si dur, cet endroit si difficile de la vie qu'est l'adolescence.
Alors, moi, l'adolescence, c'est vrai que c'est un âge qui me passionne particulièrement. Je trouve que c'est l'âge de tous les possibles. Et c'est l'âge des choix. Souvent, d'ailleurs, on résume l'adolescence à l'idée de crise avec un côté un petit peu... On ridiculise ça un petit peu,
sinon
ça passera. Et pour moi, l'adolescence, c'est vraiment un... D'ailleurs, crisis en choix, c'est, en grec, ça veut dire le choix. Et c'est vraiment un moment de choix, un moment où il y a plein de chemins possibles et où les choses se vivent pour la première fois. Et je trouve ça passionnant et fascinant. Alors il y a d'autres crises dans la vie qui reparaissent. On parle d'ailleurs de la crise de la quarantaine. D'ailleurs, Manuel, le père, vit peut-être lui aussi une crise à ce moment-là. Et de toute façon, c'est une famille en crise. Et voilà, donc moi je trouve que l'adolescence, c'est quand même un âge passionnant, vraiment. Et l'évolution, la transformation qui se passe à cet âge-là fait partie de mes sujets de prédilection, on va dire. C'est-à-dire que j'écrive en ado, en adulte, je pense qu'il y aura toujours des personnages adolescents.
Et vous dites de Joe à un moment donné, ça, je trouve que ça résume assez bien beaucoup de bouillonnement. Moi, j'aime pas le mot crise non plus, mais des bouillonnements d'adolescente. Vous dites de Joe à un moment, Joe cherche des issues. Il faut qu'elle soit patiente. Elle n'a pas l'âge de la patience ni le tempérament. C'est d'explosions dont elle rêve, d'événements grandioses, de guerres nucléaires. Ceci dit, au cours de votre roman, elle va être servie à un moment. Alors ça, c'est je dirais, et désolé parce qu'on est dans le sud de la France, mais c'est un peu le haut de l'iceberg, cette histoire de Céline, de Joe, et Céline qui va devoir affronter la vindicte des parents, la vindicte du village, les regards des autres. Mm-hmm. Mais je trouve que vous avez fait un petit travail d'entomologiste, un grand travail d'entomologiste, en nous expliquant, sans l'air d'y toucher d'ailleurs, la confrontation, on a commencé à en parler juste au début, de cet entretien, la confrontation entre les gens du pays, les natifs en quelque sorte, les ouvriers, les agriculteurs, et puis les riches, peut-être pas complètement riches, mais tout au moins les nantis qui en gros font retaper et retapent les beaux mâts du Luberon. Et là, on est complètement dans le thème de la lutte des classes qui fleurit beaucoup depuis le néo-polar dans le roman noir.
Oui, alors ça, bon, moi, ça, c'est des questions qui, de toute façon, m'agitent depuis longtemps. Mon précédent roman se passe dans un squat autogéré anarchiste. Donc, bon, c'est la lutte des classes, oui, c'est quelque chose qui m'anime. Je dois dire qu'en plus, la naissance, alors je peut-être que j'anticipe un petit peu, mais je pense au démarrage de ce roman. Il y a eu aussi toutes les réflexions qu'il y avait autour des présidentielles et de ce fameux électorat du Front National, et cette espèce de nébuleuse un petit peu où on avec des jugements dessus et des incompréhensions, et j'avais un petit peu aussi envie d'aller creuser de ce côté-là, puisqu'on comprend quand même que Manuel est aussi un personnage qui est raciste, hein, concrètement, d'un racisme assez ordinaire, on va dire.
Ah, terrible.
Il n'est pas non plus un salaud absolu. Enfin voilà, j'avais envie de réfléchir à la question de du lien aussi entre le milieu social, le vote, les idées, tout ça. Bon, je ne veux pas non plus aller trop loin sur ce terrain-là, mais parce que je pense que le livre se suffit et amorce ces questions-là. Et je ne cherche pas non plus à donner des réponses. Hein. Je ne suis pas ni sociologue, ni chercheuse, mais voilà, j'avais envie de remuer un petit peu ce terrain-là.
C'est bien pour ça que j'ai entamé en disant d'ailleurs ces chroniques de vie ordinaire, parce qu'encore une fois, vous ne portez pas de jugement. Comme vous dites, Manuel, il commence quand même par une sacrée baffe à sa fille et il paraît pas très sympathique. Et puis, petit à petit, vous lui tissez un passé, vous ne le justifiez ni ne l'expliquez, mais en racontant des petite part de sa vie, ben, ce personnage-là, comme à peu près tous les autres, ils ont, ben voilà, c'est des vrais êtres humains, donc ils ont des étoffes de salaud ordinaire, finalement, en gros.
Complètement. Mais pour moi, les salauds, ça n'existe pas. Enfin, les salauds sont aussi des gens en souffrance et ça ne justifie pas les actes, mais ça peut les expliquer, en tout cas. On peut toujours trouver des raisons et des origines au comportement. Alors, je sais pas, c'est peut-être aussi une vision un peu optimiste de l'humain, mais je réfute un peu le manichéisme des salauds et des bons, quoi. Ça n'existe pas pour moi dans la vraie vie.
Alors, si on veut être totalement trivial dans les termes, finalement, d'ailleurs, de tous les personnages, parce que on a parlé des deux ados, vous allez aussi beaucoup nous parler de la vie de leurs parents, donc Manuel, que l'on vient d'évoquer, raciste, alors que lui-même est le fils d'un émigré espagnol et a dû subir le racisme dans son enfance. Et il est raciste.
Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu.
Non, je disais, Manuel, il est très raciste, comme beaucoup des gens du village d'ailleurs, alors que lui-même est fils d'émigrés espagnols, finalement.
Tout à fait. C'est ça aussi, je voulais l'aborder, c'est-à-dire les pauvres qui tapent sur les pauvres et l'étranger de la génération d'avant qui tape sur l'étranger de la génération suivante. Parce que c'est quand même un schéma qu'on retrouve assez souvent.
Et puis dans ces aussi interactions et incompréhensions, il y a aussi le grand-père. Alors le grand-père, c'est en fait le père de Séverine, la femme de Manuel et la mère des deux ados. Et le grand-père, donc lui, il a dû trimer toute sa vie, il a amassé une petite fortune, un petit pouvoir. Et alors que c'était nettement un ouvrier, ben lui aussi, il a, alors le racisme n'en parlons pas, l'incompréhension, la haine de son beau-fils parce qu'il n'est pas assez bien pour sa fille. Mmh. Et donc on a vraiment l'impression que ces gens se font mener par le bout du nez constamment.
En fait, ils sont tous les uns et les autres à un moment donné humiliés. Et écrasés. Donc deviennent eux-mêmes humiliants et écrasants. C'est souvent le cas, en fait. C'est aussi ça que j'avais envie de creuser.
Voilà, et ça donne beaucoup d'incommunicabilité, oui. Si on peut employer ce terme, qui finit par des peurs ancestrales que les médias entretiennent aussi. C'est aussi un des sujets qui est abordé, puisque à un moment donné, il y a une rumeur qui part dans ce village complètement débile, mais on peut pas en dire plus. Mais c'est terrible la manière dont vous disséquez comment cette rumeur, voilà, il y a tout de suite quelqu'un qui est parti au djihad, alors que, voilà, c'est pas du tout vrai.
Tout à fait, mais je pense que c'était vraiment aussi le reflet de. Enfin, ça pour moi, c'est vraiment le reflet de notre époque et de certaines choses entendues, vues. Je pense à la période qui a suivi les attentats, qui a été une période terrible où les gens se sont. Il y a eu vraiment un repli et une peur et des propos incroyables qu'on pouvait entendre, y compris aux infos, enfin ou dans la vie de tous les jours, si on tendait l'oreille.
Alors,
j'ai trouvé assez effrayante et que j'ai eu envie de relayer là.
Et donc, dans ce roman aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc l'arrière-plan, le macrocosme de la société actuelle, dont la vision est très, très intéressante. Et puis, il y a les microcosmes, les destins personnels. Ce qui est intéressant aussi, c'est les relations entre les époux, entre Manuel et Séverine. Il y a leur meilleur copain aussi, Patrick et... Ça y est, je me souviens plus de son nom. Pardon. Valérie et Patrick. Il y a les grands-parents. Il y a aussi c'est très noir aussi la vision que vous donnez de ces couples.
Oui, c'est vrai que c'est deux couples assez dysfonctionnants. Oui, maintenant que vous le dites. Je savais hein, que c'était assez noir, mais je viens de mettre le doigt sur le fait qu'effectivement les deux couples sont dysfonctionnants. Pas de la même façon, mais les deux le sont, effectivement. Ouais.
Et on reste quand même dans la même veine, c'est-à-dire, je parlais d'incommunicabilité, mais finalement, moi, ce que j'ai ressenti, et encore une fois, c'est pas à sonner, vous ne racontez pas de cette manière-là, ce que l'on ressent, c'est silence intolérable qu'il y a entre tous ces personnages. Ils parlent, mais en gros, c'est des silences intolérables.
Oui, mais même entre les deux copines, là, par exemple, voilà. les deux femmes de Patrick et de Manuel, il y a aussi une difficulté à se comprendre. J'ai aussi l'impression que, tous autant qu'ils sont, ils auraient aimé autre chose. Mm. Ils auraient espéré autre chose et ce n'est pas ça. Donc c'est la vie qui n'est pas celle qu'ils auraient aimé, mais du coup c'est aussi, quelle est la première personne qui nous renvoie ça? C'est la personne avec qui on vit. Donc chacun, donc du coup voilà, l'autre devient un peu le lieu de le reflet de cet insupportable choix, quoi. Enfin, absence de choix, plus exactement.
En gros, il donne l'image de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on n'aime pas voir, peut-être, tout simplement.
Oui, oui.
On va arriver bientôt déjà à la fin de cette émission. Alors, le livre s'appelle L'été circulaire. On a commencé, Céline donc amène l'élément perturbateur en annonçant qu'elle est enceinte. Et puis la famille va aller dans une fête foraine. À la fin du livre, on ne dévoile rien. Les mêmes personnes à peu près vont retourner un an plus tard dans une fête foraine, enfin dans la même fête foraine, puisque les fêtes votives c'est toujours au même moment dans ces petits villages. Oui. L'été circulaire, moi je l'ai vu un petit peu comme ces cercles dans l'eau qui finissent par disparaître et qui font que tout passe et on oublie tout ou on essaye d'oublier tout. Est-ce que ça explique un peu ce titre ?
Alors, on n'oublie peut-être pas, mais on fait avec, en fait. Et il y a quelque chose... Dans la vie, ça ne s'arrête pas. Alors, dans un roman, il y a des fins un peu extraordinaires. Là, j'avais envie de mettre vraiment quelque chose en place justement, on retombe sur la chronique de la vie ordinaire, c'est-à-dire dans la vraie vie, ça continue. Et ça continue un peu différent, mais quand même pareil. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on... Les personnages ont été transformés par ce qu'ils ont traversé. Mais la vie continue finalement un peu pareil. Et c'est d'ailleurs assez triste aussi pour moi le fait que ça continue exactement pareil. Parce qu'on est loin de l'explosion dont rêve Jo.
Voilà, et Jo, c'est la seule personne par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir qui, elle, peut-être rêve d'ailleurs et peut-être va aller ailleurs et va donc rêver sa vie. On peut l'espérer pour elle, mais on ne sait pas, ni au début ni à la fin. Donc voilà, on va vous laisser découvrir ce roman. Donc je vais rappeler le titre. Marion, merci beaucoup. Donc vous êtes Marion Brunet, le titre « L'été circulaire », c'est paru il y a peu de temps aux éditions Albin Michel, avec une charmante adolescente vue de dos qui s'en va. On ne sait où. Marion, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès avec ce très très beau roman qui nous a beaucoup enthousiasmés. Merci beaucoup, au revoir.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.